Troisièmement, troisième repas, vous voyez, c'est quand la Marie, Madeleine, verse un parfum qui a à peu près l'équivalent de 20 millions de centimes. Donc l'équivalent d'une année de salaire. Dans un parfum d'albâtre. Pas plus grand que ça. Elle verse ça sur les pieds d'une arbre. Le parfum est plus impressionnant. Il y avait de quoi, d'après les spécialistes, embaumer toute la ville de Jérusalem pendant une semaine. C'est ce que dépensait toute la ville de Jérusalem. Il y avait quand même 2 millions pendant la Pâque. Il y avait quand même 2 millions d'habitants pendant la Pâque. Pendant une semaine.
En fait, plus extraordinaire. Judas dit, oh, il est beau. C'est terrible, le parfum. Quand on est un petit peu louche sur le fric, hein, quand on louche sur l'argent,
bon, tu jettes l'argent, comme on fait en Afrique quelquefois. Il y a le griot qui alors les marabouts arrivent et ils versent un billet de ça. Alors, on peut toujours ramasser l'argent par terre. Mais un parfum, on peut pas. C'est gâché. Alors Judas a horreur de ça. Judas n'était pas à Cana. Judas était la multiplication des pains. Et Jésus, après la multiplication des pains, dit on va lire ça. On va se contenter de lire point de vue biblique. Ce sera déjà pas mal. Donc on va y revenir. Mais en attendant, troisièmement, la gratuité extraordinaire de l'amour. Vous voyez, Marie, c'est l'action de grâce de Marie à Béthanie. Jésus a ressuscité son frère. Et elle est dans une gratitude totale. Il l'a sauvée du démon. Puis après de 7 démons, du mal, elle est arrachée, elle est libre. Et il a donné la vie à son frère. Alors, par gratitude, elle se livre tout entière à ses pieds. Elle a écouté son enseignement et maintenant elle donne tout. Extraordinaire le charisme. Action de grâce. Nous l'avons dit, action de grâce. Quatrièmement, Jésus institue l'Eucharistie au cours du dernier repas. Évangile de Saint Jean, chapitre 13. Institution, du point de vue de l'institution. Puis, cinquième repas, il ressuscite les 153 poissons, voyez, sur les bords du lac de Tibériade. Et il dit, venez manger. Et il avait préparé lui-même le repas, un poisson sur la braise. Il donne à manger le poisson sur la braise. Saint Augustin dit, le poisson ictus, les escritos, théo ouios, soter, en grec Jésus-Christ, Fils du Dieu Sauveur. Ça donne ses initiales, et ses initiales en latin. La transposition du grec en latin donne poisson. Donc le poisson qui grille sur les braises ardentes de la résurrection, c'est le Christ qui se donne à manger lui-même. Et il récapitule les 153 poissons que la barque de Pierre, c'est-à-dire la barque du pape sur les eaux, n'est-ce pas, limitée du temps. Que le lac, c'est le temps. Vous prenez de l'eau, ça fuit comme le temps. Vous ne pouvez pas saisir le temps. Ça fuit le temps, comme dit Héraclite. Et la barque de Pierre, nous savons bien, comme je vous ai dit ça tellement souvent, j'ai honte de le répéter. Vous voyez, et Jésus demande de compter les poissons. C'est ça. C'est génial. Parce que Jésus, voyez, à la fin, il sait qu'à la fin des temps, notre intelligence sera une intelligence sur la quantité rabattue de ce mieux. La quantité. Alors il demande de compter les poissons. Les poissons, 150.
Bon, non, je m'éloigne de 153, sinon j'en ai pour les deux.
Bon, en tout cas, vous voyez, 153, c'est le mystère de l'Église. c'est la barque de Pierre, c'est la barque du pape. La barque de Pierre, ça exprime l'église du pape. C'est l'église du pape qui jette les filets dans l'univers des pêcheurs, qui ramène les poissons sur le rivage solide de la résurrection. Et à ce moment-là, il n'y a plus qu'un seul poisson à manger. 153, c'est le corps mystique de l'église. Et en fait, il n'y a qu'un seul poisson à manger, c'est le Christ ressuscité. Vous avez donc, vous voyez ici, ces cinq aspects dans l'évangile de Saint Jean du mystère de l'Eucharistie. Cinq repas. Ça structure tout l'évangile de Saint Jean. C'est la trame de tout l'évangile de Saint Jean, comme c'est la trame d'ailleurs de tout l'Ancien Testament, l'Eucharistie. Vous voyez ça? Et Cana exprime qu'on peut atteindre le mystère de l'Eucharistie qu'à travers l'oraison.
Il faut vivre du Saint-Esprit. Il faut supplier à l'Esprit-Saint. Il faut accepter. Il ne faut pas refuser
que l'Esprit-Saint anime mon âme, mon cœur, mon corps, mon intelligence.
Je ne veux pas
l'Esprit-Saint. Je ne veux pas accueillir l'Esprit-Saint. Je ne veux pas demander à l'Esprit-Saint d'être là. Je ne veux pas. C'est pas mon problème. C'est pas mon truc. Bon, bah, tant pis. Alors, la multiplication des pains. On va y aller. Chapitre 6 de l'Évangile de Saint Jean. C'est le grand lieu. Hein. Le grand lieu, c'est chapitre 6. Donc, on y va. Alors, vous voyez, j'ai envie de vous le résumer plutôt que de le lire presque, parce que sinon, ce serait trop long. Donc, vous voyez, vous avez d'abord la multiplication des pains. La multiplication des pains. D'abord, j'ai presque envie de vous dire, quand même, pour les nouveaux qui ne connaissent pas, 153. Oui, parce que quand même, faut pas oublier que dans la multiplication des pains, il y a 5 poissons pour commencer et 5000 hommes. Alors, entre les deux, qu'est-ce qui s'est passé?
Parce qu'aujourd'hui, on est en classe de maternelle. Pour notre intelligence, on peut commencer par 1 plus 1 plus 1 plus 1. C'est comme dit le père Emmanuel. Ah, vous avez suivi les retraites avec le père Patrick. Ah oui. Oh, qu'est-ce qui est en merlin. 15 moins 4 plus 2 égale 12. Oh, moi, ça me fatigue.
Bon, j'espère que ça ne vous fatigue pas trop.
Et donc, 1, 5, 3.
Allez, vous avez jamais dit ça?
Ah, oui. Parce que vous dites que tout est fini. Moi, ça
hein?
Moi, ça
m'embête
depuis 4 ans, les chiffres.
Non, ouais, bon,
le mystère de l'Eucharistie.
C'est-à-dire, pour faire partie de l'Église de Jésus et passer du caractère un petit peu marécageux du lac de Galilée, on est quand même en sécurité parce qu'on est dans l'Église de Pierre, l'Église du Pape. Ça va. Mais pour faire partie de ces 153 poissons, c'est-à-dire pour aller jusqu'à la victoire de l'amour et de la résurrection, c'est-à-dire jusqu'au terme de l'Eucharistie, il faut quand même commencer par ce qu'exprime le point de vue du 1. Le 1, c'est l'adoration. On ne peut pas approcher de l'Eucharistie si on n'est pas un adorateur. Il faut adorer. Et il faut d'abord voir qu'on est seul. Et qu'il y a seulement Dieu qui est seul dans ma solitude et qui fait que j'existe. Et donc, c'est Dieu seul qui compte pour moi. D'ailleurs, pour tous les sacrements, c'est 1, 5, 3. Je dois adorer. Je suis dans un état d'adoration, c'est-à-dire Dieu, je dépends totalement de Dieu. Parce qu'il y a un seul Dieu. C'est l'unique nécessaire. À l'Ermitage, j'ai eu chez moi quelqu'un qui, je ne dirais pas son nom, mais pendant 9 mois, il passait 5 heures d'oraison par jour, sans s'arrêter,
Au bout de 9 mois, je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais comme dans ton horizon? Qu'est-ce que tu contemples? Et il me dit, je contemple l'ipsum et ses psychiques. Hein, ça vous embouche un quoi? C'est-à-dire, je contemple Dieu qui est un et qui existe par lui-même. Et c'est nécessaire qu'il existe. Et c'est cette nécessité dans l'existence de l'être premier que je contemple. C'est celui qui subsiste. C'est l'unique nécessaire. C'est la nécessité métaphysique totale. Je suis englouti là-dedans. À 5 heures. Hein, 5 heures, c'est pas mal.
Moi, j'y arrive pas. Mais vous voyez, il passe de 1 à 5.
Je suis convaincu que pour faire 5 heures d'oraison dans l'unique nécessaire, il faut la grâce. C'est naturel, pourtant, hein, contempler l'unique nécessaire. C'est naturel, j'ai pas besoin de la grâce. Quand même. Mais 5 heures de suite, il me semble qu'à cause du péché originel, il me semble qu'il faut la grâce quand même. Bon,
5, c'est la grâce.
Mystère de marche. Le mystère de la grâce. C'est facile. Parce que 1, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ce matin, je veux dire, un, c'est Dieu. Mais à l'intérieur de Dieu, il est contemplatif. Il engendre un verbe intérieur. Dieu contemple. Lumière née de la lumière. Quand Dieu contemple, il engendre un verbe. Le verbe est engendré. Il y a une fécondité en Dieu. La contemplation en Dieu, c'est le verbe, c'est le Fils de Dieu. Vous voyez, deuxième personne de la très sainte Trinité, 2. La contemplation, 3, les deux sèment et forment une nouvelle réalité qui est la troisième personne. L'amour en Dieu, c'est 3. Quand Dieu décide de créer, du coup, à l'extérieur de lui-même tout un univers, toute une création, son créateur, la création, c'est 4. Vous voyez, les 4 éléments, les 4 coins de l'univers, dès qu'on fouille tout ce que tu veux. Mais pour qu'il y ait, mais Dieu crée par amour, vous voyez, donc l'amour veut l'unité, donc il faut qu'il y ait une relation entre Dieu et la création. Cette relation qui fait qu'il y ait l'unité entre Dieu et la relation, c'est ce qu'on appelle la grâce. C'est la grâce qui me lie, et la grâce en personne, je vous salue Marie, pleine de grâce. La grâce en personne. La grâce incarnée, c'est Marie. De même que Dieu incarné, le Verbe incarné, c'est Jésus. Mais la grâce, c'est quelque chose de créé, c'est une relation entre la créature et Dieu qui n'est pas créé. Dieu n'est pas créé. On dit que Dieu n'est pas créé. Il est incréé. Dieu est incréé, tandis que nous sommes créés. Il n'est pas créé, incréé. Mais quand l'incréé se met en relation avec nous, qui sommes créés, ben cette relation est forcément créée. Alors le Verbe de Dieu, lui, il est engendré, non pas créé, puisque le Verbe est éternel. Il est incréé, puisqu'il est Dieu. Il est incréé, le Verbe de Dieu, le Fils de Dieu. Dieu contemple éternellement, donc il n'a jamais été créé. Il existe toujours. Ça va ? Bon, donc 5, c'est la grâce. La grâce en personne, c'est Marie. Le mystère de l'Immaculée Conception, la plénitude de grâce, c'est le mystère de Marie. C'est le mystère, au fond, de la source de grâce. Parce que la source de toutes les grâces, c'est le cœur ouvert de Jésus. C'est le mystère de la plaie du cœur, 5. C'est le mystère de Marie. C'est le mystère de la grâce. C'est le mystère des sacrements et de l'Eucharistie. Et enfin, c'est le mystère de l'Église. Voilà les 5 significations du chiffre 5. Mais avant tout, c'est le mystère de Marie. Ça va?
Voilà. Donc, et 3, voyez-on, je peux, par les forces de mon intelligence naturelle, sans la foi, sans la révélation, sans la grâce, toucher mon Créateur, comme Plotin, le toucher réellement, réellement, l'adorer, naturellement.
Il suffit que je sois un tout petit peu intelligent pour ça. C'est un manque d'intelligence. Ah, mon père, vous savez, moi j'ai la foi, je crois bien qu'il y a quelque chose qui existe là-haut qui fait que tout ça existe. Je dis, vous êtes un imbécile, parce que... non, c'est pas ça que je veux dire. Vous n'êtes pas un imbécile, c'est pas ça. Mais, c'est pas la foi. Ça, c'est du bon sens. ça prouve que vous avez du bon sens. C'est pas la foi. Savoir qu'il y a quelque chose qui existe, il suffit d'être un tout petit peu intelligent. D'être un peu éveillé, quoi. Il y a quelque chose qui existe, évidemment, c'est quelque chose qui existe. Voilà l'histoire. C'est une découverte. Ah, j'ai la foi, j'ai découvert qu'il y avait un œuf sur le plat à midi. Mais c'est pas la foi, ça. C'est aussi bête, hein. C'est normal. On va dire des choses pareilles. La foi, c'est quoi? La foi, vous voyez, c'est sans contre. La foi, c'est j'adore Dieu, je teins Dieu, je touche mon Créateur, je touche l'être premier, ça c'est possible. Mais pour rentrer à l'intérieur de sa vie intime et voir qu'il y a trois personnes le connaître d'une manière personnelle. Quand vous connaissez quelqu'un personnellement, il y a une communion des personnes. Or, il se trouve qu'en Dieu, il y a trois personnes. Donc, pour passer du toucher de la créature par rapport à son Créateur, qui est un vrai toucher, c'est physique, hein, ça va jusqu'au physique, je vous affirme, c'est naturel, pas besoin de la grâce, pas besoin de la foi. Pour adorer, je n'ai pas besoin de la foi. Alors là, ça, il faut être sévère là-dessus. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Moi, j'ai perdu la foi. C'est pas sûr. Tu as rejeté une tradition familiale. C'est quand même pas pareil de rejeter une tradition familiale. C'est quoi la tradition familiale? La tradition familiale, c'est pas la communion des personnes. La tradition familiale, c'est le point de vue d'une ambiance religieuse. J'espère que je vous ai bien choqué en parlant du musulman à qui on donne un coup de pied aux fesses quand il se prosterne. Parce que c'est ce qui se passe de la même manière quand on rejette la foi d'une tradition familiale. On donne un coup de pied aux fesses à sa famille parce que sa tradition religieuse, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors je rejette ça. Et on rejette toujours cette fausse religion, un aspect faux de la religion, si vous voulez, parce qu'on a la foi, justement. Et on ne supporte pas le scribe qui est là. Le pharisien, la tradition religieuse. Il y a quelque chose de psychologique là-dedans. C'est insupportable. Mais la foi, c'est tout à fait autre chose. C'est de vouloir vivre de l'amour et de la communion des personnes. De rentrer dans l'intimité de Dieu. Souvent, on l'a gardé. On confond. J'ai pas lancé. Mais la tradition familiale, c'est pas la foi. La tradition familiale, c'est une ambiance religieuse. L'ambiance religieuse, c'est par rapport au Créateur. Par rapport à la très sainte Trinité. Vous n'avez jamais vu l'Esprit Saint se balader dans la famille. Jamais. T'as vu toi l'Esprit Saint se balader dans la famille? Moi j'ai pas vu. Moi j'ai vu mon père, il dit, là vous allez m'arriver, là vous allez venir. Alors sa narine se soulevait à mesure. Ça faisait éclater de rire à ma soeur. Et à la fin de la prière, tout le monde était sorti de rire. On était neuf par terre. Tous les soirs. C'est la grosse fête, je vous assure. La fête du soir. C'est ça la foi? C'était sympa. Bon, c'est... Pour d'autres, c'est chiant. Chez nous, c'était sympa. Bon. Parce que mon père, c'est cette narine qui se soulevait. C'était extraordinaire. Alors, il y avait ma soeur, un bruit. Alors, du coup, d'un seul coup, c'était là. La paupière. Et mon père restait stoïque. Mais plus il était stoïque, plus. Vous voyez, bon, c'est-à-dire, on essaye d'exprimer ensemble qu'il y a quelque chose qui nous dépasse. C'est le Créateur. Ça, c'est la prière familiale. C'est le Créateur. C'est pas la foi. Alors, c'est toujours vécu de manière, parce que, comprenez, hein, vous savez ce qui se passe entre un mari et une femme, entre un père et une mère. Hein. Alors, vous savez faire une prière qui est toute sa force. Alors, on rejette la tradition familiale. C'est un peu normal. Parce que on a besoin d'authenticité. Et on respecte la foi. nous avons reçu la grâce de
l'amour. Alors, du coup, nous avons besoin de repasser par le mystère, justement, de Marie, le mystère de l'Eucharistie
sainte. Le mystère du cœur blessé de Jésus, il faut rencontrer personnellement cette plaie ouverte, ce baiser de l'agneau de Dieu. Il faut avoir la rencontre personnelle avec Jésus. Le nom de Jésus, rien que le nom de Jésus, si on est capable, comme dit l'Épître aux Romains, chapitre 10, verset 10, si on est capable de dire, de prononcer avec nos lèvres le nom de Jésus, pour qu'il descende dans notre cœur et qu'il atteigne dans une expérience personnelle, d'amour. Il faut supplier, évidemment. En même temps, la Sainte Vierge de nous aider. Il faut supplier l'Esprit Saint d'être là. Il faut aimer notre prochain quand on fait ça. Il faut que notre intelligence soit réveillée. Les cinq conditions. À ce moment-là, je peux rencontrer personnellement, dans une expérience réelle et personnelle, Jésus crucifié. Jésus qui m'aime. Alors on est bouleversé. Ça, c'est simple. Il faut que je passe par le mystère de l'Eucharistie. Il faut que je passe par le mystère de Marie. J'adore, mais c'est avec la grâce que je peux passer de cette adoration, voyez, parce que je ne peux pas rentrer dans l'intimité de la très sainte Trinité, voyez, dans le Cantique des Cantiques, en haut du palmier, grimper en haut du palmier, allez-y. C'est où un palmier? Pour saisir les grappes. La très sainte Trinité. L'intimité. C'est pour ça qu'on ne peut pas. Vous ne pouvez pas atteindre la très sainte Trinité à la force du poignet. Ah, moi je vais y arriver. Hein? Ça peut durer longtemps, vous savez. On peut monter à la force du poignet. Dans 8 siècles, vous n'êtes pas arrivé, tour de Babel. Vous n'y arriverez pas. Vous pouvez adorer. Ça, d'accord. Vous pouvez adorer la très sainte Trinité. Il faut la fusée du Saint-Esprit qu'on appelle la grâce. C'est Marie. Ce cheval blanc prodigieux de l'Apocalypse. Le cheval blanc. Chance. Fusée du Saint-Esprit. La grâce. Par la grâce, par Marie, qui me fait rentrer dans la plaie du cœur. Ah, ça y est, je rentre à l'intérieur de Dieu. Et je saisis le Père. Je suis en communion avec Christ pour être une seule vie avec lui. Et je suis dans la jubilation du Saint-Esprit. Et comme les trois personnes ont une manière de m'aimer, dans différent. Je connais distinctement le Père, le Fils et l'Esprit Saint, expérimentalement parlant. Mais ça, on ne peut pas me l'arracher. Ça. Et ceci est en moi, l'état de germe, comprenez? Voilà ce que fait le mystère de l'Eucharistie. Je donne cinq pains et deux poissons. Vous voyez? Et du coup, Marie, le mystère de mille, est un mystère de l'Immaculée Conception, comme je vous l'ai dit, c'est facile à comprendre, parce que les 10 commandements de Dieu, c'est-à-dire l'amour du Père, l'amour du Fils, l'amour du Saint-Esprit, et l'amour plénier au point de vue humain, 7, qui se rassemblent en Marie, 10, et multiplié au cube, parce qu'elle vit des 10 commandements de l'amour de Dieu et l'amour du prochain, dans ces 3 dimensions de l'homme, dans la résurrection et dans la très sainte Trinité, multiplié au cube. Ça, c'est le mystère de l'Immaculée Conception. 10, 10. Quand l'Immaculée Conception est passée par l'Eucharistie, ça y est, le mystère de l'Église est là. Le corps mystique est arrivé. Vous voyez comment le pape Paul VI disait dans Mysterium Fidei, le corps mystique, c'est quelque chose qu'on a inventé dans l'Épître, et que les pères attribuaient à l'Eucharistie. L'Eucharistie. Et aujourd'hui, on dit, le corps mystique, c'est... Vous voyez, on est passé au 12e siècle du deuxième repas, 20e siècle, 5e repas. C'est des petites choses qu'il faut faire attention, bien sûr. Un signe, ça aussi. Il y a beaucoup de petits jalons comme ça. Dans contemplation, la profession de foi de l'Église. Et évidemment, c'est normal, que plus l'Église se rapproche de la fin, plus le petit reste se fait petit. Là, ils sont 5000. Il n'y a pas beaucoup de pain. Mais là, il y a beaucoup de... Il y a très peu de personnes. Très peu. Très très peu. C'est sûr, à la fin, c'est petit reste. C'est pas gênant, ça. C'est même beaucoup mieux.
Bon, vous comprenez bien. À partir de là, 153. Donc vous comprenez, il faut avoir cette petite gymnastique de chiffres. Bon. Alors, on va se mettre à l'évangile de Saint-Jean, chapitre 6. Donc Jésus prend les 5 pains, les 2 poissons, et les multiplie pour ces 5000 hommes. Il les multiplie dans 12 corbeilles. 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Ça, c'est quand même assez génial. Donc comptez 5000. Il y avait forcément les femmes. Hein? Quand il y a 5000 hommes, il y a forcément deux fois plus de femmes pour suivre un prophète, un espèce de moine. Je sais pas, non, autant. Mais bon, c'est exceptionnel. Bon, mais en général, c'est comme ça. Parce que les hommes travaillent, les femmes... Bon, et puis il y a les enfants. À cette époque-là, ils étaient nombreux. Donc ils étaient quand même 20 000 au moins là-dedans. Oui, oui. Alors il y avait un petit garçon là qui avait un petit sandwich. Sa maman l'avait préparé. Les apôtres disent, Jésus, quelque chose qui ne va pas. Il ne se rend pas compte. C'est un prophète. Il n'a aucun sens des réalités. On se trouve maintenant à 20 km du premier boulangerie. On est 20 000. On va tous crever. Après on va dire, ouais, regardez ça. Et qu'est-ce qu'il apprend tout dans les dents, c'est nous. Non, Jésus, il y en a, ils murmurent, tu vois. Mais enfin, ils ont louché. Il y en a un gosse qui a 5 pains et poissons. Il y en a un qui a douché. Jésus monta sur la montagne et là il s'assit avec ses disciples. Or la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Voilà, c'est l'approche de la résurrection, vous voyez. Jésus, donc, ayant levé les yeux, la contemplation du Christ, et voyant qu'une grande foule venait à lui, dit à Philippe, où achèterons-nous du pain pour que ces gens aient à manger? Jésus savait très bien que les apôtres trouvaient ça un peu gonflé. Je suis capable de scruter. Alors, il disait cela pour l'éprouver, voyez? Il disait cela pour l'éprouver, parce que il savait ce qu'il devait faire, lui. Philippe lui répondit, 200 deniers de pain ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive une miette. Alors, on sent qu'il est énervé. Hein. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a un garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Il n'avait rien dit jusqu'à maintenant, mais puisque Jésus dit qu'il faut leur donner à manger, lui, il avait louché. Il a dit, moi, j'ai rien à grailler, mais lui, il a 5. Il avait fait comme Caïn et Abel, il avait louché sur le pique-nique du petit garçon. Comme c'était quelqu'un qui était formé par Jésus depuis quelques mois déjà, il n'avait rien demandé. Il n'avait pas dit, oh, au petit garçon. Non. Quand Jésus a dit, hey, il y en a. C'est marrant de voir ça. Un de ses disciples, André, frère Simon-Pierre, il dit, oui. Jésus lui dit, faites-les asseoir. Il y avait beaucoup d'herbe en ce lieu, l'herbe symbole de la grâce. Hein? Toujours. Quand Jésus est sur la montagne, il est sur le sommet de son mystère, donc il s'installe dans le Verbe, il regarde vers le ciel, il contemple vers le Père, il s'assied, il prend la nourriture eucharistique et il donne. Voyez, la grâce. Il faut s'asseoir, se reposer dans la grâce. Il s'assied donc au niveau au nombre d'environ 5000. Voyez. Et Jésus prit les pains, et ayant rendu grâce, il les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna même les 2 poissons, autant qu'ils en voulurent. Il se donne lui-même, et il donne le mystère de l'Église à chacun d'entre nous. Ça, c'est quand même extraordinaire. À travers le mystère de l'Eucharistie, il se donne lui, son corps, son âme, sa grâce, sa divinité, et la très sainte Trinité, et sa gloire. Les 5. Et en même temps, il donne Marie et il donne l'Église. Et donc, quand je vide l'Eucharistie, il donne en même temps les 2 pains, les 2 poissons. Ça, c'est prodigieux. Or, je tiens à vous dire, puisque on est dans le 5, vous voyez, 5, 5, 5, bon, on va retrouver une autre colonne. Il faudrait faire un colonne et que je passe un jour un tableau à 5 colonnes. Hein.
Oui. Vous avez le tableau à 7 colonnes, à partir des 7 dimensions de l'homme, mais on pourrait faire un tableau à 5 colonnes, à partir des 5 modalités de l'âme. Bon, mais il faut progresser encore du point de vue intellectuel. Trouver quelles sont les 5 parties du corps mystique qui est l'Église.
Catéchisme. Allez, monsieur le maire. Oui, vous avez appris votre catéchisme, parce que vous en rappelez, vous. Quelles sont les 5 parties du corps mystique de l'Église? L'Église est un corps. L'Esprit Saint nous rassemble dans un seul corps. Pour première partie du corps mystique de l'Église, la tête.
La tête, c'est qui? C'est le Christ ressuscité. Il y a le lien entre la tête et les membres, c'est Marie. Le lien, c'est Marie. Vous voyez, résurrection, assomption, qui s'ouvre pour nous embrasser dans le mystère de l'Eucharistie. Et du coup, ils enfantent quoi? Ils enfantent les saints, l'Église triomphante. Donc, ici, tous ceux, toutes les âmes séparées, jubilant dans la vision béatifique, touchant le corps ressuscité du Christ et trouvant à travers le corps ressuscité du Christ dans leur âme la consolation de la séparation de leur corps en encore dans la vision béatifique. Ce qu'on appelle ceux qui sont dans la purification. Hein. En ce moment, c'est la semaine où on pense à eux, n'est-ce pas ? Le 1er novembre jusqu'au 7 novembre, on pense à eux, principalement, n'est-ce pas ? C'est l'Église souffrante, c'est ceux qui souffrent, mais ils sont heureux parce qu'ils sont sauvés. Et ils ont un amour prodigieux, une espérance, une charité parfaite. Et ils n'ont plus la foi, puisqu'ils ont vu le Christ ressuscité, mais ils ne sont pas pénétrés encore dans la très sainte Trinité, ils souffrent. C'est l'Église souffrante. L'Église souffrant, l'Église purifiée, et enfin, l'Église militante, c'est l'Église de la terre. L'Église de tous ceux, l'Église de la terre, c'est tous ceux qui, étant baptisés, ont la foi, qu'ils le sachent, qu'ils ne le sachent pas. Qu'ils aient la foi explicite ou la foi implicite. Le musulman, par exemple, qui est chrétien sans le savoir. Je me rappelle de Sadou, par exemple, quand on distribuait la nourriture aux affamés au Sahel. Sadou était un type extraordinaire. C'était un bouzou. Les bouzous, c'est une tribu, qui sont les esclaves des Touaregs. Moi, j'ai pas eu 20 000 hommes, j'ai eu 100 000 hommes à nourrir pendant un an. J'avais 24 ans. Donc j'étais plus jeune que le Christ. Et j'avais pas le pouvoir de multiplier les pains. Je vous affirme que j'ai essayé de multiplier les pains. Ça n'a pas marché. En même temps, vous aviez l'Eucharistie. Je ne sais pas si vous connaissez la basilique de Tarse. La basilique d'Ars, c'est une basilique un peu presque souterraine, presque, en béton, tout ça. Et puis, ils ne peuvent pas rentrer, ils ne peuvent pas sur l'autel, vous pouvez pas. Vous avez beau mettre plein de calices, vous mettez plein d'hosties dedans, vous n'atteignez pas 20 000 hosties. C'est pas possible. Il a beau être grand l'autel, vous ne pouvez pas. Vous savez, dans un calice, vous mettez quoi? Vous mettez... maximum, vous mettez 300 hosties, si le calice est bon, alors vous accumulez des calices pour vous arriver à 5000 avec un immense hôtel. Il y a 20 000 communions d'années. Vous voyez le problème? Ah, ça c'est systématique, 3 ans de suite. Alors, le brave Ephraim, qui est un type que j'aime bien, il repérait les prêtres qui étaient là, qui concélébraient, et qui avaient perdu la foi. Qui n'avait pas perdu la tradition familiale, mais qui avait perdu la foi. Vous voyez la différence? Le rôle, ça s'est croisé. Et il repérait, c'est facile à repérer. Hein. Un curé qui a perdu la foi, ça se repère immédiatement. Il n'a pas perdu la tradition religieuse, non. Bon, alors il repérait. Vous donnez la confiance. Hop. Allez, c'est bon. Allez, je l'ai. Hop, comme ça.
Et puis quand le calice était vide, qu'il y avait encore 1000 personnes devant eux, il n'y a plus que 10 hosties. Bon, alors, plus lentement, c'est pas. Et puis, il y avait encore 1000 hosties. Après, il revenait. Et il célébrait l'Eucharistie d'une manière un petit peu polie. Bon, multiplication, c'est rien la multiplication. Quand le moi-même j'ai vu des multiplications de l'Eucharistie. Donc, quand j'ai vu tous ces affamés, je dis quand même, allons, j'ai fait comme Judas, je dis, mais enfin quoi, les pauvres, c'est plus important, non? Allez hop, Seigneur, il faut multiplier, allez, multiplie ça, vas-y. Paf, il se multiplie. Je dis, Seigneur, t'es gonflé. Et il faut voir le contexte. Il faut voir le contexte. Moi, je connaissais pas la langue du pays, là où ça, tout ça. C'était sur mes épaules, tout ça, vous comprenez? Et puis en plus, c'était pas mon métier, c'était pas venu pour ça. J'étais venu pour être animateur culturel. Alors, franchement, c'est pas la même chose. Pardon? 1974. Pardon? Ah oui, alors donc il y avait Sadou qui était là au milieu. Et Sadou était quelqu'un d'extraordinaire parce que c'était un... Il était esclave jusqu'au bout des ongles. Il était la tribu des Bouzous, mais très pauvre. Et c'était un musulman, un adorateur. Ah ça oui. Alors ça, c'était un adorateur. Et vous voyez, quand il a vu qu'il y avait des pauvres, il manquait de pain. À qui on ne donnait pas leur dû, parce qu'on recevait beaucoup de milliards par l'UNICEF, le machin, les secours de ces CFD, tout ce que vous voulez. Hein? Et puis, banque suisse. Je n'ai pas vu un centime arriver dans la bouche des affamés. Je peux vous le dire, personnellement. Les seuls qui sont venus, c'est venu des secours catholiques, Caritas, Rome. J'ai reçu pas grand chose. Je ne me rappelle plus exactement les chiffres. Mais enfin, très peu, hein. Donc, à qui qu'on voulait homicider, puisqu'on voulait en profiter pour faire une espèce de génocide. C'est pas ça. Victime. Et lui, il était disponible pour la gratuité. Et dans la gratuité. C'est un amour gratuit. Et c'était par rapport au pain. Alors, il était là. J'essayais de me faire aider par les musulmans un maximum. Et au bout de 6 mois, j'ai abandonné. Je n'ai pris que des chrétiens. Parce que les musulmans, systématiquement, détournent. Dès qu'ils pouvaient. Il n'y avait que les chrétiens. Qui ne gardaient rien, même pas un grain. Ça, je vous affirme, mais il n'y avait que ça. Des musulmans qui respectaient le pain des pauvres. C'est le seul. Et à la fin, oh, il adorait, vous savez, mais je vais vous dire, à la fin, il n'avait pas la foi chrétienne, explicitement. Il dit, moi, je suis musulman. C'est très bien. Je dis, moi, je suis encore plus musulman que toi. Encore plus. Beaucoup plus. Mais, difficile pour t'expliquer. Mais c'est bien, c'est bien. Et dit, toi et moi, on a la même foi, il disait. Je dis, c'est vrai. Et dit, mais, à la fin, tout à fait à la fin, parce que quelqu'un qui est religieux et qui a la foi sans le savoir est un homme secret. Et il vit intérieurement. Et il m'a dit à la fin, avant que je parte, il me dit, Maïkida, oui, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, je vais te dire quelque chose. Il dit, ça va. Il dit, Maïkida, tu sais, moi, j'aime Dieu. Il dit, je le sais. J'ai vu.
Et tu lui parles ? Elle me dit oui. Et lui, il te parle. Et il dit comment ? Et elle me dit la nuit, quand je dors, le ciel se déchire. Et il vient me parler. Il me dit, tu vois, Sadou, ça, c'était bien. Ça, c'était moi bien. Alors, le matin, quand je me réveille, je fais comme Dieu m'a parlé. Oui, mais quand il te parle, tu vois quelqu'un ? Il dit oui. Il ressemble à quoi ? Un ange, une libellule, un papillon ? Il dit un homme. Il dit, il est habillé comment ? Avec une tunique. Quelle couleur ? En blanc. Et il n'a pas une ceinture en or, par hasard ? Il dit oui. Il est noir comme toi, ou blanc comme moi. Il dit plutôt comme toi. Ah, il n'a pas une barbe ?
Ouais.
Est-ce que tu as demandé à ton marabout qui c'est ? Il dit oui, j'ai demandé au marabout. Est-ce que marabout t'a dit qui c'est ça ? Marabout m'a dit qui c'est ? Qui est-ce qui a répondu ? Il a dit c'est Sidna Issa. Donc quand Dieu parle, c'est le verbe. Et le verbe, c'est Sidna Issa. En toutes lettres dans le Coran. Et lui vivait du Christ. Du chrétien. Et ayant donc la grâce, il pouvait faire partie de l'église et donner le pain aux pauvres. Tandis que quand je le retournais, moi, à Maradi, au village, et qu'il y avait ces espèces de chrétiens catholiques, soi-disant, ou protestants, pareil, enfin. Il y en avait deux, il y en avait à peu près 70, hein, qui se prélassaient l'après-midi dans la piscine avec des Africains, tu sais, en blanc, en costume, présentaient le whisky, etc. À 300 mètres de là, je faisais des distributions de nourriture. Je vous affirme, ça faisait peine à voir. Alors, lequel avait la foi chrétienne ? Permettez ? Alors, moi, quand j'arrive à la piscine, je suis allé une fois. Parce que je devais aller à Niamey, n'est-ce pas ? On quittait à 400 km, c'est une musique ambiante, piscine, whisky, star. Elle dit, oh, c'est vous qui vous occupez de la nourriture ? Oh mon ami, oh merveilleux, je suis très heureux de vous connaître, très très heureux. C'est bien ce que vous faites, ça c'est bien. Ah oui, merci de lui. Je cherche une voiture pour aller à Niamey, c'est lui, pas trop de temps. Oui. Ah, oui, c'est très très bien. Mais vous voyez, j'ai entendu dire, c'est affreux, affreux. Il paraît qu'on frappe les effondrés pendant les distributions de nourriture. Quelle horreur, mais quelle horreur. Vous n'y étiez jamais allé. C'est moi, n'est-ce pas, qui ai la cravache. Parce que quand vous voyez, quand j'ai regardé, c'est moi qui ai la cravache. Donc si, c'est moi qui ai la cravache. C'est moi. Et si vous voulez que je jette dans la piscine, je vous jette tout de suite. Si ça vous fait chier. Je cherche une bagnole pour elle. C'est incroyable ça. Quand on regarde les distributions de nourriture qu'il y avait après la guerre de l'Iran, à la télévision, il y avait ces scènes. C'est honteux la manière dont ils distribuaient la nourriture. Aux Kurdes là, je sais pas quoi.
Honteux.
C'est une honte. Parce que moi je vous assure, vous arriviez avec le camion, des gens qui ont faim. Il faut quand même savoir ce que ça veut dire. Mais quand on a faim, mais c'est épouvantable. C'est épouvantable. On ne peut pas imaginer pire que ça. Parce que, vous voyez, à un moment donné, c'est l'estomac qui se replie sur lui-même et qui se dévore lui-même. Alors après, ça sort par en bas, les entrailles et tout. C'est épouvantable. Une fois d'ailleurs que ça en est là, évidemment, on ne peut plus rien faire. Mais c'est épouvantable, c'est épouvantable. Alors vous rendez compte, la fureur, dès qu'ils voient un camion arriver, se précipitent. Et ils sont 2000, 3000. Mais s'ils se précipitent, ça fait au moins 200 morts. Il faut avoir une cravache. On tape pas dessus, évidemment. Alors, on a un système très simple. Une cravache, je vous donne le système, si jamais un jour vous le faites. Hein. Voilà. Donc, vous sortez du camion, ça. Vous les mettez comme ça, à distance. Et puis vous faites le tour. Vous tapez par terre. Hop ! Ah, allez. Hop ! Hein ?
Alors du coup, il rigole.
Ah, Maïguida, Maïguida.
Et comme ça, ils se tiennent à distance. Mais on ne frappe jamais, j'ai jamais frappé cette personne. Il y avait quelques-uns qui, malheureusement, le faisaient, mais c'était des marabouts. Et les marabouts, j'étais obligé qu'ils soient là. Parce que le préfet m'avait donné l'autorisation à condition que les gens aient l'impression que ça vient des marabouts. Donc j'étais un petit peu obligé d'y aller. Alors eux, prenaient un carré, sans hésiter. Ça me faisait un petit peu. Je l'empêchais immédiatement d'aller chez le voisin, c'est évident. Enfin, pour eux, c'est normal, pour comprendre la mentalité aussi. Bon. Mais, parce qu'eux aussi, ils veulent pas qu'il y ait 200 morts. Bon, ils maîtrisent pas trop. Bon, alors voyez ça. Pourquoi est-ce que je parle de tout ça? J'y comprends rien. Mais bon, vous voyez, vous me faites partir, vous me faites déraper sur des histoires invraisemblables. Bon, vous comprenez la foi de celui qui est au bord de la piscine, vous voyez? Ah mon Dieu, vous avez frappé les éprouvés. J'ai sauvé leur vie autant que je peux. Et quelquefois, il vaut mieux dire espèce d'idiot si ça peut le sauver.
Ah, il m'a dit espèce d'idiot.
Mais oui, mais du coup, t'es pas tombé dans le précipice. Ah, oh, j'y avais pas pensé. Ah, il serait peut-être temps que j'y pense. Bon, alors. Il y avait donc beaucoup d'herbe en ce lieu, et beaucoup de grâce dans le milieu de l'Eucharistie. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000. Jésus prit les pains, et ayant rendu grâce, il les distribua à ceux qui étaient assis. Vous voyez, il faut se reposer. Et il leur donna de même ces deux poissons, autant qu'ils en voulurent. Vous voyez, lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, recueillez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Ils les accueillirent et remplirent 12 corbeilles des morceaux qui étaient restés, 5 pains d'orge, après qu'ils eurent mangé. Ces hommes ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Sachant donc qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, Jésus se retira de nouveau seul sur la montagne. Jésus ne donne pas la multiplication des pains pour qu'on le fasse roi, c'est-à-dire pour qu'il ait le pouvoir. Il donne la multiplication des pains pour être encore plus gros. C'est pour ça qu'il s'en va. Les gens se disent, ah, génial, ce type. Non seulement il est prodigieux, mais en plus, allez voir le mystère de Robert Hossein. Hein. Eh, pareil, c'est bien. Vraiment, c'est bien. Hein? Oui, mais c'est très bien. Mais vous pouvez y aller, c'est très, très... Bon, ok. Bon, ça, c'est prodigieux. Prodigieux. Bon, donc voyez bien, il est prodigieux, ce type. Prodigieux. Et en plus, En plus, on n'a plus besoin de travailler. Du pain, du poisson, tant qu'on veut, il peut faire ce qu'il veut. Plus besoin de travailler. Du coup, Jésus, sinon, il s'en va. Et les disciples aussi. Hein. Les disciples, il a lâché tout le monde. S'il a lâché les disciples, c'est que les disciples aussi s'étaient dit, ça y est. Avec qui va être le premier ministre des Affaires étrangères, ministre de l'économie et des finances. Et ça commence à rouler, hein. Mais Judas qui disait, mais ça, la bourse. Oui, mais Judas, c'est la ministre des Finances à tous les coups. Il disait, c'est génial. Ah, Judas, ça y est, j'y suis arrivé. J'étais sûr, j'avais été voir une voyante quand j'avais été 12 ans. Et elle m'avait dit, tu seras ministre des Finances, du plus grand, du roi des rois. Et ça y est, j'arrive. J'en étais sûr. Ça se réalisait. Ça y est, je tiens mon truc. Ils vont en baver les impôts, les machins. Vous voyez, le soir venu, les disciples descendirent au bord de la mer et étant montés dans une barque qui traversait la mer, dans la dire, et voilà. Et ils les envoient à travers la mer. Allez. Il faisait nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Et Jésus était parti dans la montagne prier. Cependant, la mer, soulevée par un grand vent, était agitée. Hein? Quand ils eurent ramé, vous voyez, quand ils ont ramé. Ah oui, quand Jésus, du coup, allez, hop, à la pénitence, vous vouliez un petit peu vous gaver, mec, dans les fauteuils du palais de Ponce-Pilate et d'Hérode. Allez, ramé. Et quand vous aurez ramé, que vous serez épuisé, on va attaquer la falaise. Oui, parce que c'est beaucoup plus difficile d'attaquer la falaise que de ramer. Non, c'est la petite expression de Marius et Olive, enfin, je ne sais pas. Cependant, la mer, soulevée par un grand vent, ils ramaient environ 25 à 30 stades. Vous vous rendez compte?
Ils ont ramé. Il faisait déjà nuit, donc ils ont ramé plus de 6 heures. Et ils n'ont fait, je ne sais pas si vous connaissez le lac de Tibériade, et ils n'ont fait que quelques centaines de mètres. En 6 heures. Je ne sais pas qui est-ce qui a déjà ramé ça. Ça devait être vraiment, vraiment, le Seigneur. Il ne multiplie pas, il fait ce qu'il veut, etc. Et il le fait ramer comme ça. Oh, alors là, ils étaient passés du boudage à... Vous savez, c'était avec Jésus, ça devait être... Il y avait de quoi être complètement psychotique au bout de 3 jours. On passait de la névrose à la psychose irrémédiable. Ça, j'avais du travail pour les psychanalystes, là. Parce que, il boude, il murmure, puis d'un coup, multiplication des passagers, on est arrivé. Et hop, après on rame. Mais c'est affolant, ça, on passe d'un sommet à l'autre, mais là, on ne s'y retrouve plus au point de vue psychologique avec Jésus. Si pour vous c'est la paix psychologique qui compte, n'allez pas avec Jésus. Vaut mieux pas. Alors, ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque. Alors, ils furent pris. Panique. Maintenant, c'est la panique en plus. Ça y est. Un espèce de spectre, tu vois ça. La panique. Mais il leur dit, c'est moi. N'ayez pas peur. Ils voulurent donc le prendre dans la barque. Et à l'instant, la barque se trouva au lieu où ils allaient. Alors là, vous avez pensé. Vous voyez, le mystère. De la multiplication des pains, de la barque, et puis l'explication du mystère de l'Eucharistie qui vient tout de suite après. Donc entre la multiplication des pains et le mystère de l'Eucharistie explicité dans ce qu'on va lire après, vous avez ici une structure extrêmement forte. L'Eucharistie, le pain multiplié ici, et dans la barque de Pierre, qui est dans la lutte, c'est pour ceux qui doivent lutter. Dans la barque de Pierre, dans ce monde agité, où tous les vents sont contraires. Comme disait Peggy, voyez, vous connaissez ça, parce que vous l'avez entendu des vingtaines de fois, n'est-ce pas? Quand vous êtes sur le fleuve, coule, coule, coule. Vous connaissez la Meule d'Arve, n'est-ce pas? Hein? C'est de qui la Meule d'Arve? Smetana. La Meule d'Arve, Smetana. Extraordinaire. Ça commence cette musique par l'eau qui coule de la montagne du sommet, ruisselante goutte à goutte, formant un petit ruisseau d'eau. C'est la source de cette espèce de rivière. Puis après, ça dévale par temps, ça éclate sur les rochers. Ça dévale. Puis après, petit à petit, c'est une rivière qui devient un fleuve, qui lentement draine, et va dans le courant. Si vous ramez pas contre courant, vous êtes foutu. L'homme, disait Peggy, c'est celui qui rame à contre courant. Parce que si vous allez sur le fleuve, vous voyez, vous vous laissez conduire par le peuple, l'esprit, le fleuve, l'esprit du monde. Les vents sont contraires par rapport à l'homme. Et si vous regardez bien, et que vous mettez un cadavre, c'est ce que disait Peggy, vous mettez un cadavre à côté d'une barque, même si vous ne ramez pas, le cadavre va plus vite que la barque. Ça veut dire que si vous êtes un homme mort intérieurement, c'est-à-dire que vous n'êtes plus un homme, vous êtes une bête, au point de vue de l'intelligence et du cœur, vous allez plus vite vers la chute. En fait, il faut ramer en sens contraire. Il faut aller à contre-courant. L'homme, c'est celui qui remonte vers la source. Il remonte vers sa source. Et donc il faut remonter le fleuve. Vous voyez ça? À contre-courant. On remonte le fleuve. L'homme, c'est celui qui aspire à son principe, à son alpha et à son oméga. À son principe. Son alpha, c'est son principe dans l'ordre de l'être. Son oméga, c'est sa finalité. C'est les deux principes, alpha et oméga. Et vous voyez, ça, c'est tout ça, c'est de la philosophie, mais il faut vite revenir, n'est-ce pas? Et alors, Ils rament, ils sont au milieu, ça fait des heures qu'ils rament, ils n'ont fait que quelques centaines de mètres, ils ne peuvent plus, l'Eucharistie c'est pour nous, c'est pour ces gens-là. Mais quand l'Eucharistie rentre, Jésus est présent, l'Eucharistie devient présent. Vous voyez, Jésus devient présent dans la barque, c'est la présence personnelle de Jésus dans la barque, qui nous retire de la panique, qui nous met dans la paix. Vous voyez, Eucharistie égale présence. Jésus est présent par le Christ. Donc c'est dans la lutte, c'est pour nous donner la paix. C'est la présence réelle et personnelle de Jésus. C'est en même temps une présence efficace, puisque j'ai ramé pendant des heures, j'ai à peine, c'est tout juste si j'ai pas reculé. Mais dès que Jésus est présent, hop, ça y est, le kilomètre et demi qui me reste est fait en un instant. En une seconde, ça y est, on est arrivé. Présence efficace. Eh bien écoute, la multiplication des pains a eu lieu à une heure bien précise, n'est-ce pas? Et puis, et donc là, le soir venu, les disciples descendirent au bord de la mer, étant montés dans une barque, ils traversaient la mer dans la direction de Capharnaüm. Il faisait déjà nuit. Voilà. Oui, c'est d'après l'évangile selon saint Matthieu, parce que cette portion est saint Luc. Alors, il faut faire les synoptiques. Bon. Écoute, fais toi-même la recherche. Bon, je te dis ça de mémoire, parce que mais c'est d'après les synoptiques. Hein. C'est écrit par trois évangélistes, donc on voit à peu près combien de temps ils ont. Bon, alors, simplement, la présence est efficace. Il faut regarder ces points de vue profonds. C'est que la présence est efficace. Dès que Jésus est présent, on est arrivé. On est arrivé dans la résurrection. Donc, vous voyez, le sacrement, c'est ce qu'on dit en théologie, c'est que l'Eucharistie est un sacrement. Et un sacrement, c'est un signe efficace. Qui réalise un signe efficace, qui réalise une présence réelle, qui donne la paix et qui nous met dans la très sainte Trinité. Donc, la résurrection. Rivage sur le... Déjà ? C'est effrayant. Bon, alors vous voyez bien qu'à partir de ce moment-là, on est prêt. On est prêt pour recevoir le grand enseignement de Christ sur le mystère de l'Eucharistie. C'est ce qu'il y a dans les versets suivants, et je crois qu'on a une petite heure pour pouvoir méditer ça. C'est ce qu'on fera dans...
4h30. À 5h. 5h.
Il est 4h30 à 5h, ça va?
Non. De 5h à 5h.
De 5h moins 10. À 5h moins 10. On a 20 minutes, ça va? Pour souffler. Détendez-vous. Thank you.